7h18 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Marc Boucher.
Aujourd'hui, le thème des enjeux, l'Iran. Quel jeu diplomatique à l'égard de Téhéran dans le dossier nucléaire?
Voilà, beaucoup d'actualités. Jean-François Daguzan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Sécurité Globale. Alors, des étapes récentes dans le dossier. D'abord, la volonté américaine d'éradiquer à long terme l'arme nucléaire, renforcée le 24 septembre par le vote d'une résolution de l'ONU. L'annonce par les Occidentaux et par Téhéran de l'existence d'une seconde installation d'enrichissement d'uranium en Iran. Des menaces déclarées d'Israël, voilées des États-Unis. Les États-Unis se sont donné jusqu'à décembre pour décider d'un nouveau cours des choses. L'assouplissement apparent ou réel de la position russe en matière de sanctions économiques plus dures. Les fortes réticences de la Chine en la matière. La poursuite constante de l'effort spatial iranien, encore des missiles testés ce lundi. Et puis une nouvelle réunion prévue demain à Genève par le groupe des six, c'est-à-dire les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne, outre bien sûr l'Iran. Et c'est une réunion, donc je crois l'avoir dit, à Genève. Alors, à quel moment se situe-t-on de ce dossier? Dans quel contexte, Jean-François Daguzan?
On est dans un moment charnière du dossier iranien. D'un côté, on a plusieurs éléments qui convergent vers une prise de décision, qu'on le veuille ou non. Il y a d'abord la main tendue de Barack Obama au moment de son élection. Le président américain a fait un geste significatif en disant on peut peut-être régler le problème différemment que de la méthode employée par l'administration Bush.
Et dans un respect mutuel, disait-il.
Et dans le respect mutuel, justement, pour revenir sur les questions de dignité et de respect que les Iraniens, auxquels les Iraniens aspirent, et plus globalement les pays en développement. Donc il s'agissait d'un signe plus général. Le deuxième élément se situe au cœur de l'élection iranienne, qui est la victoire des radicaux, et je dirais cette victoire des radicaux ayant permis d'éradiquer, qui plus est, les plus modérés. Ce qui n'avait pas été fait dans les urnes a été achevé dans la rue. Donc maintenant, il est vraisemblable qu'on retrouve un pouvoir iranien plus cohérent qu'il ne l'avait été pendant le premier mandat d'Ahmadinejad, et malheureusement plus cohérent dans sa rigidité. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs les manœuvres dilatoires. Et troisième élément, évidemment, c'est plus globalement la politique nucléaire pour l'avenir que le président Obama a définie et qui, en posant la question du désarmement nucléaire ultime, d'une certaine manière, fixe aussi le cadre de la discussion aujourd'hui et de sa politique, c'est-à-dire que pour pouvoir assumer le désarmement nucléaire ultime, il faut que les pays s'engagent évidemment à désarmer, ce qui n'est pas le cas de l'Iran.
Alors, Jean-François Daguzan, à propos des sanctions économiques, on retrouve en fait la sempiternelle prévention des États, c'est-à-dire qu'on estime généralement qu'elles ont trois défauts, qu'elles soient infligées pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ces sanctions économiques, elles sont inefficaces, elles sont contre-productives et elles sont contournées souvent.
Alors, il faut quand même rappeler que l'Iran est sous embargo depuis 1992 de la part des États-Unis. C'était le célèbre double containment qui était appliqué tant à l'Irak qu'à l'Iran et que les États-Unis ont maintenu. Ensuite, après la première crise du nucléaire, c'est-à-dire après 2003 et les efforts des Européens, d'abord de la communauté internationale, ensuite des sanctions plus importantes, plus générales plutôt, ont été posées. Alors, jusqu'à maintenant, on se voit bien, évidemment, comme vous le dites, que ça ne fait pas baisser l'intensité de la volonté, parce que on a pesé sur des avoirs financiers, on gèle l'accès à un certain nombre de matières ou de technologies, et surtout de technologies de pointe, bien évidemment. Et ceci étant, face à un pays décidé comme l'Iran et ayant, qui plus est, je dirais, les moyens d'organiser un trafic...
Oui, c'est un pays riche. C'est un pays riche.
C'est un pays riche, un pays qui a des frontières terrestres de tout, à peu près partout, et une très bonne frontière maritime, ce qui fait que ça peut rentrer relativement facilement malgré le blocus qui peut être posé.
Jean-François Daguzan, un sénateur américain récemment, je crois que c'était hier, a dit « Mais pourquoi ne pas sanctionner donc l'Iran en ce qui concerne les importations de carburant, puisque l'Iran est pétrolier, mais a très peu de moyens de raffinerie ?»
Alors, effectivement, il y a une crise de la raffinerie iranienne à tel point qu'il y a eu des émeutes de l'essence l'année dernière, ce qui est quand même absolument paradoxal pour un pays pareil. Et évidemment, vous avez par rapport à cette sanction ultime, deux oppositions majeures, le Japon et la Chine, qui évidemment consomment énormément de pétrole iranien. Et vous avez aussi, jusqu'à maintenant, mais alors il s'agit de voir si cette opposition va évoluer, une opposition russe qui considérait aussi que cette sanction était surévaluée par rapport à l'enjeu.
Donc la question reste en l'air.
Alors, la question reste posée, et pas seulement celle-ci, puisque en principe, les sanctions, c'est une gradation dans la sanction. Donc on peut partir simplement des restrictions de voyage,
des gels des avoirs, etc.
Voilà, en passant par le gel des avoirs, puis en bloquant les importations et en bloquant les exportations, puis en passant, je dirais, du passif à l'actif, c'est-à-dire le blocus en tant que tel qui isolerait complètement l'Iran du reste du monde.
Juste d'un mot, Jean-François Daguzan, il y a une entité dont on n'a pas parlé, mais qui est importante, qui semble être en partie d'ailleurs contournée par les grandes puissances, c'est l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Oui, alors ça, c'est compliqué parce que l'Agence de l'énergie atomique a fait quand même un bon boulot en sortant un certain nombre d'informations. Mais Mohamed Al-Baradei, le président partant, le directeur partant de l'agence, a toujours appliqué une politique de réserve vis-à-vis, de prudence en tout cas vis-à-vis de l'Iran, ce qui fait qu'à la fois les États occidentaux se servent de l'AIEA pour dénoncer officiellement les agissements de l'Iran, tout en n'étant pas forcément satisfait du niveau, finalement, d'engagement de l'agence par rapport à ce pays. Et de l'autre côté, l'Iran considère que l'AIEA n'est en fait que le relais des Occidentaux. Donc, la malheureuse organisation est dans une situation délicate.
Et l'Iran dit que, par exemple, pour la deuxième installation dont on a révélé l'existence, l'Iran est d'accord donc pour faire venir les inspections.
Oui, tout à fait. Alors, on se demande d'ailleurs les Iraniens ne nous ont pas construit un artefact merveilleux, c'est-à-dire qu'ils ont fait la superbe installation que l'AIEA va pouvoir visiter.
Merci. Merci, Jean-François. Le temps coule comme du sable entre les doigts. Jean-François Daguzan, Fondation pour la recherche stratégique.
Quelle sagesse, Thierry Garcin. Merci, à demain.